Bonjour à toutes et à tous. Nouveau rendez-vous sur CFM Rhodes. Désormais, toutes les semaines, le jeudi à 12h35 et le samedi à 11h, les Chroniques financières, une émission proposée, présentée, animée par Steve Bono. Bonjour Steve.
Bonjour David, bonjour à tous. Et merci en fait pour me donner l'opportunité de cette chronique. On va parler effectivement de finances, on va parler d'argent. Et l'idée principale en fait, c'était de comprendre l'opacité un petit peu de la finance, l'opacité des marchés financiers et essayer de démystifier un petit peu cet environnement qui, de prime abord, peut paraître abscon, peut paraître confus, alors que en réalité, la finance a une fonction très sociale à la base, une fonction donc importante pour l'économie, importante en fait pour les sociétés en général. Et on va essayer donc de lever un petit peu le voile sur ce qui se passe, comment tout ça fonctionne et quel est l'intérêt aussi pour les épargnants de comprendre les mécanismes financiers de base ou qui régissent un petit peu les marchés.
Alors on va parler d'argent, hein, vous l'avez quand même dit, puisque chronique financière, c'est à base d'argent.
C'est ça.
C'est la matière première.
Exactement.
Bon, pourquoi parler d'argent?
Parce qu'en fait, c'est un thème très important. On est un petit peu dans des sociétés où l'accès en fait à cet argent, comment gérer cet argent pour les gens, qui est une question qui va prendre, je pense, dans les années à venir, un sens beaucoup plus important. On regarde, par exemple, ce qui se passe au niveau des pays développés. Je prends le cas de la France, où on a une dette sociale, où on a une dette extérieure qui a tendance à augmenter. Donc, ça va nécessairement avoir un impact sur la manière dont les gens abordent leurs finances personnelles. Et c'est important, donc, de bien comprendre que les techniques financières appliquées à la personne vont, à mon avis, prendre beaucoup, beaucoup d'importance dans les mois et les années à venir. Et je pense donc qu'il est intéressant d'expliquer un petit peu dès maintenant les concepts un petit peu fondamentaux, comment ça fonctionne, etc., etc.
Alors, quand on parle d'argent, on parle de monnaie. On croit voir de quoi il s'agit exactement, mais ça a plusieurs fonctions, la monnaie.
Exactement. Alors ça aussi, donc on va partir de la base. À quoi sert la monnaie? Traditionnellement, il y a trois fonctions principales de la monnaie. Une première fonction que tout le monde connaît, c'est une mesure de la valeur. Grosso modo, en fait, le prix des biens et des services. Une deuxième fonction, en fait, qui est un moyen d'échange, parce qu'avant l'introduction de la monnaie, on avait recours au troc, qui est aussi un moyen d'échange, mais bien moins pratique que celui introduit donc par la monnaie. Et une troisième fonction qui, pour moi, est vraiment très importante, parce que aussi très, très lié en fait à toute l'activité financière, c'est la fonction de réserve de valeur. C'est-à-dire que avec votre argent aujourd'hui, vous avez deux choix grosso modo. Un, vous pouvez le dépenser immédiatement en consommation. Et deux, vous pouvez l'épargner pour avoir une consommation à une période future, une période en fait qu'on appelle généralement l'horizon de consommation.
D'accord.
Et donc l'idée en fait de la finance, c'est de dire ce qu'on va faire entre la période à laquelle on dispose des fonds et la période de consommation ultérieure. Comment on va gérer cette période? Comment faire en sorte en fait que l'argent ne perde pas de valeur ou ne perde pas de pouvoir d'achat?
Oui, voire même aller un petit peu au-delà, pas simplement compenser la perte de pouvoir d'achat, mais même gagner de l'argent.
Exactement, hein, tout à fait.
Il faut quand même le dire.
Il faut le dire. Et on va d'ailleurs, dans les chroniques, un petit peu plus tard, expliquer aussi, et ça c'est très important, les différents concepts de risque. Parce que tout est lié, en réalité. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que souvent, dans la tête des gens, quand on investit en bourse, par exemple, on parle immédiatement de risque et la peur, en fait, de perdre de l'argent est vraiment, vraiment au devant de tout ce qui est dans la tête des gens. Il y a plusieurs niveaux de risque. Il y a un risque qu'il faut accepter parce que, comme me dit l'adage, en fait, qui ne risque rien n'a rien. Donc, quand on veut accumuler, en fait, du pouvoir d'achat, quand on veut accumuler, en fait, de la réserve de consommation, il faut accepter de prendre un niveau de risque. Et on va plus tard expliquer, en fait, quel niveau de risque on peut prendre. Qu'est-ce que c'est que le risque? Il faut le définir aussi, c'est important, parce qu'il y en a plusieurs. Et donc, voir comment tout ça est lié et comment, en fait, le risque va logiquement découler, hein, vous permettre en fait de faire croître votre capital.
Alors sur ces différents points, Steve, on aura l'occasion de revenir en détail hein, sur oui. CFM dans vos chroniques financières toutes les semaines. Alors Steve Bonneau, si vous avez choisi de parler d'argent, de finances, d'investissement, c'est parce que c'est votre métier, peut-être même aussi votre passion à la base.
C'est les deux, en fait. Je suis un petit peu tombé dedans, un petit peu comme Obélix dans la potion magique. Et en fait, si vous voulez, au milieu des années 80, il y avait, c'était une période très très particulière, on parlait énormément de finances. Moi, je me souviens, en fait, d'un film qui m'a marqué, en fait, qui est le film Wall Street avec Michael Douglas. C'était vraiment, pour les gens qui avaient 15-16 ans dans les années 80, c'était magnétique, on va dire. Et donc, en fait, voilà, donc j'ai décidé à l'époque de dire, bah, tiens, c'est quelque chose vraiment qui m'intéresse et je vais poursuivre dans cette voie. Donc, j'ai fait des études. Alors, j'ai démarré après mon bac. Je suis parti 3 ans en Angleterre. J'ai fait l'équivalent d'une licence en économie. J'ai poursuivi, en fait, à Bordeaux avec un DEA et un magistère d'économie et finances internationales. Et j'ai eu la chance de démarrer, en fait, ma carrière en banque privée à Monaco.
Ah ouais, comme vous dites. Enfin, en tout cas, oui, Monaco, quoi.
Voilà. D'accord. Donc, un environnement très particulier, très banque privée.
Très privilégié.
Oui, très privilégié, effectivement. Et puis, alors, surtout, j'ai eu la chance d'intégrer un très grand groupe de suite, en fait, qui est Barclays.
Ah oui.
Et dans la division banque privée. Donc, je suis resté, en fait, j'ai commencé chez Barclays à Monaco. Je suis resté jusqu'en septembre 2005. Mes fonctions à Barclays à Monaco étaient de m'occuper, en fait, de clients privés qui investissaient, qui intervenaient en direct sur les marchés financiers. Donc, on avait notre propre desk, comme on dit dans le jargon, avec ce qu'on peut avoir, en fait, si vous voulez, dans l'idée qu'on se fait un petit peu de la finance, donc les écrans, les chiffres qui clignotent, etc. etc. Donc, c'était un environnement très, très particulier. Et donc, ma fonction était de conseiller donc, des clients privés sur des positions, que ce soit en change, en actions, en obligations, en produits dérivés.
Donc, des placements, conseiller sur des placements.
Conseiller sur des placements. Alors, j'ai eu la chance aussi, à cette époque, d'intervenir en tant qu'assistant trésorier. Et c'était très intéressant parce que Monaco étant Monaco, l'unité en fait, sur place avait ses propres books, c'est-à-dire en fait, gérer ses propres positions.
D'accord.
Et donc,
vous n'étiez pas dépendant de Barclays à Londres.
Non, on avait notre propre autonomie, confidentialité oblige. Donc toutes les opérations, toute la chaîne de back office était traitée sur place.
D'accord.
Et ce qui fait qu'en fait la banque gérait ses propres fonds. Et donc ça donnait l'occasion en fait d'intervenir en direct dans les marchés financiers. Et de prendre en fait des positions qui étaient relativement importantes. Donc c'était vraiment une approche extrêmement intéressante, très pratique, très pragmatique, parce que là, vous avez vraiment, vous gérez de l'argent.
Concrètement, oui.
Voilà.
Oui.
Donc, vous êtes exposé. C'est-à-dire que, et puis, c'est des sommes souvent qui...
C'est pas avec mon salaire qu'on peut... Oui, j'imagine bien.
Mais on peut en parler, si vous voulez.
Je suis pas sûr. On y viendra peut-être.
Et donc, en fait, après quelques années donc, à Monaco et sur le desk, j'ai eu l'opportunité, en fait, de rejoindre Barclays au Moyen-Orient.
Oui.
Parce que, alors, la raison était que je voulais profiter d'être dans un grand groupe pour me déplacer, pour bouger à l'intérieur du groupe, explorer d'autres choses. Alors, j'ai postulé de partout en interne, à Moscou, à Londres, en Argentine.
Hong Kong,
De partout. Ouais. Et c'est Dubaï qui est arrivé.
Dubaï ?
Dubaï.
En quelle année ?
C'était en 2005.
À l'époque, il n'y avait pas grand-chose d'autre que du sable.
Disons que c'était en construction C'était, c'était en pleine expansion. Oui. Donc, on commençait à en entendre parler vraiment de manière intéressante. Et puis, je me suis dit, ça me paraît être une opportunité vraiment à saisir.
Ouais, Monaco, Dubaï.
Merci. Hein. Non, mais c'était vraiment très intéressant. Alors, me voilà parti à Dubaï. Je débarque là-bas en septembre 2005. Ma mission, c'était de monter le desk investissement sur place. Pourquoi ? Parce que...
Desk, on va traduire, on dirait alors, quoi ? Le pôle, le bureau, le service ?
Voilà, le service investissement.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire le service qui centralise un petit peu la compétence et le support aux banquiers. Sur place, en fait, initialement, les banquiers étaient couverts par leurs collègues de Genève. Sauf que le volume d'affaires était en train de se développer et il leur fallait vraiment une compétence sur place pour pouvoir être beaucoup plus proche des clients et exécuter, structurer les opérations financières de manière plus rapide. Donc, j'arrive à Dubaï. Donc un choc.
Ah bah
déjà,
oui.
Un choc parce que autant à Monaco, il y avait vraiment beaucoup d'argent.
Oui. Oh, mais à Dubaï, on passe encore dans une autre dimension, non?
Alors c'est un petit peu différent. Ouais. Il y a culturellement de grandes différences. C'est-à-dire que les clients à Monaco faisaient des opérations qu'on appelle cash. C'est-à-dire qu'ils avaient, par exemple, 100 euros sur leur compte, ils achetaient...
Oh, ils avaient plus, Steve.
Je schématise, ouais. Mais c'est vrai. Ouais. Il manque quelques zéros, ouais. Mais vous allez comprendre la différence. Mmh. Donc, avec leurs 100 euros, ils pouvaient acheter des titres et vendre, très bien. À Dubaï, c'était complètement différent. C'est-à-dire qu'ils empruntaient systématiquement l'argent pour faire investir. Les mêmes opérations. Donc, des clients avec une psychologie beaucoup plus agressive... Mmh. Vraiment des gens qui avaient plus un profil trading, et on en reparlera un petit peu plus tard. Et donc, c'est vraiment un choc de civilisation de ce point de vue-là. Deuxième grosse différence après, c'est que effectivement, il y a beaucoup d'argent au Moyen-Orient, mais c'est de l'argent aussi qui est investi dans le fonds de roulement des entreprises. Beaucoup plus, en fait, que détenu à titre personnel par des individus.
Ah, d'accord. Okay.
Et ça, c'est important. Parce que il faut savoir que sur place, à l'époque, bah, les entreprises, comme la zone était en pleine expansion économique, faisaient des taux de rendement à deux chiffres. Mmh. Et donc, nous, dans la banque, on avait aussi beaucoup de mal à leur proposer en fait, des produits...
Qui rapportent plus.
Exactement. Mmh. D'où aussi l'idée pour eux d'être beaucoup plus agressifs et d'utiliser les fonds de la banque en complément de leurs fonds propres pour prendre des positions. Beaucoup plus dangereux, mais beaucoup plus rémunérateurs potentiellement. Et donc, je suis resté en fait à Dubaï, pour Barclays à Dubaï jusqu'en 2008.
Ah, c'est une date qui est importante dans le monde de la finance.
Eh oui, une date un petit peu qui a fait couler beaucoup d'encre.
Oh, puis tout s'est écroulé, en tout cas, on l'a craint.
Et oui, effectivement, ouais. Oui, et tout s'est effectivement écroulé.
Ouais. C'est la crise des subprimes, on aura peut-être l'occasion d'y revenir.
On y reviendra
la
aussi.
La grande crise financière qu'on a connue dans le monde entier d'ailleurs, en France ça a été peut-être un petit peu atténué, mais enfin on se rappelle tous de cette période-là, Sarkozy qui disait les paradis fiscaux c'est fini, on va réformer la finance, voilà.
Oui, okay. Bah, absolument. Donc 2008, je vais chez Crédit Suisse. L'intérêt pour moi d'aller chez Crédit Suisse aussi, parce que évidemment une banque privée suisse, il y en a beaucoup, mais il y en a deux en particulier, et ça, c'était une des deux. Mmh. Et donc, je me disais, en fait, c'est vraiment très intéressant d'ajouter quelque part ce nom à ma carrière.
Ouais.
Alors, j'ai rejoint Crédit Suisse pour un projet très spécifique qui était en fait de développer toute la partie finance islamique.
D'accord. Alors, qui répond aux règles du droit islamique.
Islamique.
D'accord. Ah oui, il y a des trucs particuliers là aussi, ça vaudrait au moins une émission. Hein.
Oui, oui, mais ouais, c'est okay. Intéressant. Il y a des choses vraiment intéressantes.
Oui, bien sûr.
Et donc, c'était le projet, en fait, l'idée qui était très intéressante, c'était de faire de Crédit Suisse Dubaï, en fait, le centre d'excellence mondial, en fait, des produits islamiques pour la banque.
D'accord.
Et super. Donc, je l'ai rejoint. Malheureusement, 2008 arrive, tout est remis en cause.
Oui.
Et donc là, c'est un petit peu la douche froide.
Oui, j'imagine. Mais,
ok, très bien. Donc, on fait avec. Hein.
Et on n'a pas le choix.
On fait avec.
Ouais.
Donc, alors, me voilà retourné. Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que, ayant passé beaucoup d'années chez Barclays, j'ai pu en fait retourner chez Barclays.
Ah oui.
Ouais. Alors, pas dans la banque privée, mais dans la partie domestique. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'au Moyen-Orient, alors ça, on pourra y revenir, mais les banques de détail étaient aussi très, très axées sur la partie investissement. Et donc, ils avaient aussi besoin d'une compétence domestique pour démarrer, en fait, leur. Moi, je dis. Assez naturellement desk, mais je sais qu'on n'a pas...
Leur
service investissement, voilà.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a amené en Aveyron?
Alors, ce qui m'a amené en Aveyron,
parce
en fait...
Parce que là, Dubaï, Monaco, ouais. D'accord, Crédit Suisse, Barclays et compagnie, et là, vous êtes avec moi dans les studios de CFM Rhodes.
Ouais. Ah, c'est une question, en fait, qu'on me pose souvent. Ce qui m'a amené en Aveyron, en fait, c'est que par rapport à l'idée que je me faisais de la finance et de la banque quand j'avais 15-16 ans, et que on parlait de ce film Wall Street,
ouais.
Et la réalité... Hein, sur le terrain et surtout de voir en fait comment les choses ont évolué, je me suis aperçu en fait que ça manquait de sens. On aura l'occasion d'y revenir sur le sens en fait de la finance. Mmh. Ça m'a beaucoup coûté en fait parce que moi...
En argent ?
Non, si vous voulez, en effort psychologique.
D'accord.
Voilà. Parce que j'estime en fait qu'il faut vraiment comprendre pourquoi on fait ce métier. Et que si on perd de vue en fait le sens premier de la finance, ça devient une activité très très superficielle. Et ça... Pour moi, je ne pouvais pas l'accepter.
Mais c'est souvent l'image qu'on a d'ailleurs de ouais. Ces métiers-là, la finance, le trading. Ouais. Oui.
Donc on se disait, mais quelle est la valeur ajoutée? Qu'est-ce que j'apporte véritablement à un client? Et dans la manière dont les banques privées progressaient, on a perdu, à mon sens, le fil en fait de ce qu'on fait, de cette valeur ajoutée qui est fondamentale. Donc, je me suis dit, OK, je ne vais pas continuer en fait dans des grandes banques. Ça ne m'apporte rien personnellement. Je ne m'épanouis pas. J'ai fait le tour. Qu'est-ce que je peux faire ? Il se trouve qu'en fait, pourquoi l'Aveyron ? Parce que j'ai familièrement de très fortes attaches avec le département, déjà.
D'accord, oui.
Parce que c'est un département que j'apprécie beaucoup. On vit très bien en Aveyron et c'est important. C'est important d'avoir cet équilibre.
C'est vrai que vous pouvez comparer avec Monaco, Dubaï, Aveyron, et vous nous dites que l'Aveyron, c'est...
Oui, on vit très bien. Bon. On vit très bien. Et pour moi, en tout cas, c'est important d'avoir cet équilibre, en fait, entre la partie professionnelle et la partie personnelle. Et puis surtout, on est au 21e siècle. Et donc, on a des facilités aujourd'hui de communication qui font qu'on peut très bien servir des clients depuis Rodez, comme depuis Monaco, depuis Dubaï. Aujourd'hui, pour accéder à l'information financière, c'est un clic.
Ouais.
Tout est en ligne. Les produits, les fabricants de produits, tout est à portée d'ordinateur ou à portée de téléphone. Et on peut facilement faire un service banque privée depuis Rodez. Et c'est le défi, en fait, que l'équipe de ICA, AMC et moi-même, en fait, allons relever.
ICA, c'est l'entreprise dans laquelle vous travaillez.
Exactement. C'est le cabinet en fait d'investissement financier, de conseil en investissement financier dans lequel je travaille.
D'accord. Vous êtes à Rodez même ? Vous êtes basé où ?
On est basé à avenue Victor Hugo.
D'accord.
Donc vraiment en plein cœur de Rodez. Okay. Et voilà. Donc l'idée, c'est ça.
Très bien. Vous êtes installé ici depuis combien de temps donc ?
Moi, je suis installé depuis 2020 à peu près, fin 2020, début 2021.
Ah oui, donc depuis peu.
Depuis peu, mais enfin, encore une fois. Oui. L'Aveyron, je le connais depuis que je suis tout petit, parce que voilà, une partie de ma famille est sur Estaing, une autre partie est sur Antibes.
Ouais. D'accord. Bah, c'est à peu près à mi-parcours, parce que Rodez-Estaing, il faut bien 3-4 heures. Non, je déconne.
On n'est pas.
Parfois.
J'en sais en léger.
Bon, Steve, on va maintenant passer à la deuxième partie de ce premier rendez-vous à les chroniques financières sur CFM Rodez. On va planter le décor, si je peux me permettre. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'investissement ?
Alors,
ça, pareil, ça peut sembler clair, mais ça ne l'est pas forcément.
Non, et c'est important en fait, de bien faire la distinction. Souvent, les gens, quand on leur parle de finance ou d'investissement, ils ont cette idée du spéculateur. De la spéculation, moi, ce que j'appelle des activités de trading.
Ouais, bah c'est ce à quoi on pense quand là, vous êtes revenu sur le film avec Michael Douglas au Wall Street. Ouais, c'était ça.
Exactement. Ah. Donc, c'est-à-dire que voilà, des gens qui sont collés derrière leurs écrans, qui achètent,
fous,
qui vendent.
Des fous furieux.
Ah, des fous. Alors, c'est un métier passion aussi. Hein. Donc, mais cette partie-là, en fait, du métier est très, très particulière. À la différence, une fonction ou un service d'investissement, c'est quelque chose qui est véritablement centré sur le client. Et là, je reviens en fait sur ce qu'on disait au début, sur la conservation du pouvoir d'achat et la maximisation du pouvoir d'achat. La fonction première en fait des activités d'investissement, c'est vraiment de faire croître le capital d'un client pour que, à échéance de son horizon d'investissement, il ait au moins conservé son pouvoir d'achat, mais idéalement, il l'ait agrandi
un peu plus,
son pouvoir d'achat.
Mais oui.
Et donc, la grosse différence immédiatement, c'est qu'on a un horizon temporel plus important.
Dans les investissements par rapport
dans
au trading.
Exactement.
D'accord. Le trading, on peut revendre plusieurs fois dans la journée, à la limite.
Exactement. Et c'est pas du tout la même chose.
D'accord. Dans la tête et même en pratique, j'imagine.
C'est exactement très, très, très différent. Et c'est aussi ça, en fait, de cette différence dans le temporel, en réalité. Hein. Les techniques appliquées sont très différentes. C'est-à-dire que quand on investit, c'est un vrai partenariat entre le client et le gestionnaire parce que la grosse valeur ajoutée en réalité du gestionnaire, c'est de bien comprendre ce que veut atteindre le client.
Oui.
Et c'est assez étonnant, mais dans ma carrière, c'est une chose qui est très, très négligée.
C'est-à-dire de la part des clients, vous
de
voulez dire
de la part des clients et des banques, des deux.
Ah ouais, les deux, d'accord.
Parce que vous posez en fait une simple question, et je l'ai fait à plusieurs reprises à des clients, à savoir... Qu'est-ce que vous voulez faire de votre argent ? Pourquoi vous investissez ? Et la plupart du temps, la réponse que l'on obtient, c'est pour gagner le maximum.
Ouais.
Ça paraît logique,
ouais.
Mais ça ne l'est pas. Pourquoi ça ne l'est pas, en fait ? Parce que si vous voulez gagner le maximum, qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant que gestionnaire ? Le maximum, c'est quoi ?
C'est combien ?
C'est
à quelle
combien
hauteur, ouais.
Est-ce que vous avez la capacité financière de supporter ce maximum ? Parce que qui dit rendement maximum dit aussi souvent risque maximum.
Ouais.
Alors, est-ce que vous pouvez financièrement vous le permettre ? Est-ce que vous pouvez psychologiquement vous le permettre ? Et c'est là où on fait vraiment la différence entre le trading et l'investissement. Est-ce que la structure de votre patrimoine fait qu'il y a un intérêt pour vous à véritablement avoir prendre le maximum de risques pour espérer le maximum de rendement? Donc, toutes ces questions-là, cette discussion avec le client, c'est la valeur ajoutée du gestionnaire. C'est pas justement de dire, tiens, on va acheter là et on va en vendre là. Pas du tout. C'est de bien comprendre cette partie-là du client. Et en fait, une fois qu'on a compris ça, on peut dérouler. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, oui, on met en place une stratégie, on met en place un portefeuille et on vise un rendement qui est satisfaisant pour que le portefeuille permette au client d'atteindre ses objectifs.
Alors l'investissement, justement, vous avez commencé à l'évoquer, un des deux aspects de la chose, de l'activité financière. Qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire?
Voilà. Alors ce qu'on peut faire, en fait, c'est justement prendre le temps d'expliquer et de discuter avec le client pour qu'on soit bien d'accord ensemble sur des objectifs communs à atteindre. Et ce qu'on ne peut pas faire, c'est du trading.
D'accord.
Le conseiller en investissement financier ne peut pas faire de trading. Il y a une raison très simple à ça, c'est que le trading, quand vous prenez des positions extrêmement courtes, votre sensibilité au risque n'est pas la mienne. Moi, je peux peut-être prendre ou accepter, par exemple, d'avoir des pertes potentielles beaucoup plus importantes que vous, parce que pour des raisons XY, parce que je suis formaté psychologiquement comme ça, mais beaucoup de gens, en fait, ne peuvent pas faire ça. Dire que dès que les marchés se retournent contre eux, il y a la panique.
C'est tout le monde vend. Ouais, c'est ça. On voit ça à chaque fois.
Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre ça. Souvent, même quand une fois que les gens sont investis dans les marchés avec un plan d'investissement et avec des objectifs, il y a toujours malgré tout cette émotion qui revient.
Bah oui.
Et c'est ça qu'il faut gérer. Et le plan d'investissement sert à gérer ça. Chose qu'on peut pas faire avec du trading.
L'investissement, donc, c'est ce sur quoi vous travaillez notamment encore en Aveyron en ce moment,
ouais,
dans un cabinet.
Exactement.
On appelle ça un cabinet ?
Un cabinet.
D'accord.
Un cabinet de conseiller en investissement financier.
Voilà. ICA ?
ICA.
Comment ça s'écrit ?
ICA, c'est
les trois lettres.
ICA Finance.
Très bien. Donc, quatre piliers, une méthodologie.
Ouais.
C'est ça un petit peu l'idée ?
C'est ça l'idée. En fait, les quatre piliers, ça correspond un petit peu à ce que je vous expliquais. Donc, un, bien comprendre quels sont les investissements, en fait, enfin les objectifs du client. Deuxièmement, structurer en fait un portefeuille qui corresponde à ces objectifs, c'est-à-dire mettre en place donc une allocation par classe d'actifs, qu'on appelle, c'est-à-dire des actions, des obligations, du monétaire, de sorte que en fait le taux de rendement espéré du portefeuille nous permette par composition, par le placement, d'atteindre en fait à terme les objectifs du client. Faire en sorte que tout au long de la relation, quoi qu'il puisse arriver, qui impacte par exemple la structure du patrimoine d'un client, des choses de la vie qui viennent impacter en fait la structure du patrimoine d'un client et potentiellement donc sa capacité à assumer du risque, tout ça soit retranscrit dans la structure du portefeuille parce qu'il faut ajuster systématiquement le portefeuille en fait pour coller au plus près aux objectifs des clients. Et dernier point, faire en sorte que les investissements du portefeuille soient aussi en fait puisse en fait permettre de réaliser ses objectifs. C'est-à-dire qu'il faut que chaque investissement qu'on mette dans le portefeuille soit conforme en fait à ce qu'on attend d'eux. Et dès qu'il y a une déviation, on corrige, on rebalance.
Steve Bonneau, je le rappelle, vous proposez ce rendez-vous, les chroniques financières sur CFM Rhodes une fois par semaine. On va se retrouver toutes les semaines. Là, on a parlé d'investissement. Moi, je vous ai parlé de mon salaire. C'est très intéressant, par ailleurs, même si j'ai moyen de rien, d'apprendre des choses, de connaître un petit peu ce qui se passe derrière ces choses-là. En termes d'investissement, on s'adresse à partir de combien je peux investir ?
Ben, en réalité, ce qui est très important, c'est qu'on peut investir à partir de pas beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si vous avez à mettre 200 ou 300 euros, 400 euros, ça vaut quand même le coup de le faire.
Par quoi ? Par jour ? Par mois ?
Par mois.
Oui, donc ça peut concerner du monde.
Ça concerne beaucoup de monde.
D'accord.
Et c'est très, très important. Vraiment, il va falloir, en fait, je pense que cette culture financière va devoir être beaucoup plus prégnante dans les mois et les années qui viennent parce que ben, le monde change.
Ouais.
Le monde change, en fait, et il va falloir, qu'on le veuille ou non, en fait, aussi s'assumer quelque part financièrement de plus en plus.
Oh, vous me faites peur quand vous dites ça.
Non.
Si, quand même.
Mais non.
Et Steve, juste en France, sur le côté finance, training, j'ai le sentiment qu'on n'a pas beaucoup la culture. Bon, vous, oui, il y a des cas particuliers, ouais, ceux qui travaillent dedans, mais par rapport à d'autres pays, aux États-Unis, où les gens, tout le monde a des actions, même en Europe, il y a des pays, ouais, comme ça. C'est vrai qu'en France, on n'est pas à fond là-dedans. Hein. Peut-être plus en Aveyron, non, je sais pas.
Non, alors, en fait, ce qui est étonnant,
ouais,
c'est que en réalité, on dit souvent que l'assurance vie est le placement préféré des Français. Mais dans l'assurance vie, il y a quand même des investissements actions. Il y a quand même des fonds, des SICAV, des OPCVM qui sont investis sur les marchés. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la même culture que la culture anglo-saxonne qui est beaucoup plus axée marché, effectivement. Donc, ils ont des plans d'investissement régulièrement et ils s'intéressent beaucoup, en fait, à chaque action en particulier. Mais attention, en France aussi, on a cette culture-là. On a aussi des plans d'épargne retraite, on a des plans d'épargne dans les entreprises qui font que, oui, il y a quand même, en fait, un aspect investissement financier qui est important.
Bon, on va en prendre plein de choses toutes les semaines grâce à vous, Steve Bonneau, sur CFM. Vous allez nous donner des plans de temps en temps ou pas?
Oui. Non,
là, il faut acheter du blé ou... Enfin, du blé, du vrai blé.
Hein, je pense que c'est un petit peu tard.
C'est tard, ouais, d'accord.
C'est un petit peu tard. Ouais. Mais, alors encore une fois, ça, c'est une question vraiment intéressante. Parce que là, cette question renvoie en fait à l'horizon temporel. C'est-à-dire, vous voulez acheter du blé, pourquoi? Parce que vous pensez que vous allez pouvoir le revendre dans 2 jours, dans 3 jours, dans 2 semaines? Ou c'est parce que ça fait partie d'une allocation d'actifs, en fait, qui va vous permettre d'atteindre des objectifs à bien plus long terme?
D'accord.
Et donc, toutes ces discussions-là sont vraiment des discussions très, très importantes à avoir entre le client et le gestionnaire. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est la valeur ajoutée du gestionnaire.
Notre prochain rendez-vous, c'est dans une semaine tout pile, même heure, même lieu, hein, CFM Rhodes. De quoi on va parler la semaine prochaine, Steve Aigou?
On va développer un petit peu ces 4 piliers fondamentaux, en fait, de cette valeur ajoutée du gestionnaire.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Et à la semaine prochaine.
Merci. Au revoir.